Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance, en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, pour notre émission Petit sujet psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous, Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delaize. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Chaque année, l'hiver est propice aux infections. Il est important de s'en protéger en renforçant nos défenses immunitaires. Les vitamines et les minéraux seront de précieux alliés. Où les trouver? Voici la réponse. Lorsqu'il fait froid, la vitamine star, c'est l'acide ascorbique, autrement dit la vitamine C. Elle va aider votre système immunitaire à se montrer plus performant. Mais savez-vous que l'orange n'est pas le fruit le plus pourvu? En fait, quatre autres variétés en regorgent. Le cassis, le kiwi, la papaye et la mangue. Autre vitamine susceptible de vous aider à rester en forme, la vitamine D. Outre son action sur l'assimilation et la fixation du calcium, elle joue également un rôle primordial dans la réponse immunitaire. Les déficits sont plus fréquents l'hiver car cette vitamine est en partie synthétisée à partir des rayons du soleil sur la peau. Dans l'assiette, voici donc le top des aliments riches en vitamine D avec en première position l'huile de foie de morue. Si vous n'êtes pas fan, tournez-vous vers les poissons gras, les saumons, les harengs, les sardines, les maquereaux, la margarine ou les œufs. Mais il n'y a pas que les vitamines, certains minéraux ont aussi leur rôle à jouer. Si vous vous sentez fatigué ou irritable, c'est que vous manquez peut-être de fer. Ce dernier a une importance capitale dans les mécanismes de l'immunité. Le boudin noir, le foie ou encore les lentilles en sont les plus pourvus. Autre oligo-élément indispensable à notre organisme, le zinc. Il participe au renouvellement de nos cellules. Côté alimentation, les gourmands seront à la fête puisque vous le dénicherez dans les huîtres, les viandes rouges, mais aussi dans le chocolat. Enfin, l'importance d'un microbiote intestinal en bonne santé n'est plus à prouver. Une cure de probiotiques pour stimuler le système immunitaire apparaît comme une très bonne idée. Vous en trouverez dans les laits fermentés.
Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
Bonjour à tous. Le saviez-vous? Plus qu'en été, en hiver, notre peau souffre de la déshydratation et de la sécheresse. Et nos mains sont particulièrement concernées. Pour éviter que notre peau ne craquelle, voici quelques conseils. Les soins à apporter à vos mains passent par une hydratation intense. Pour commencer, il est très important d'éliminer les peaux mortes. Un gommage adapté à la peau de vos mains sera nécessaire. En massant les gros grains, vous décollerez les peaux sèches tout en activant la circulation sanguine. Bien entendu, terminé par un rinçage soigneux. Une fois réalisé, vous pouvez vous attaquer à l'hydratation. Si vos mains sont très craquelées, faites donc un soin de fond. Choisissez une crème hydratante et émolliente et appliquez-la en couche épaisse le soir, juste avant d'aller vous coucher. Même si ce n'est pas très glamour, nous vous conseillons d'enfiler de temps en temps des gants en coton que vous trouverez en pharmacie. En les gardant toute la nuit, la peau aura le temps de s'imprégner des éléments hydratants et nourrissants. Ensuite, il est question d'entretenir l'état de vos mains au quotidien. Cela passe par une hydratation régulière et fréquente. Ayez toujours sur vous une crème hydratante que vous utiliserez après chaque lavage.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé, que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 Damary-lès-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous, Petit Sujet Psychologique. J'y reçois Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
Petit Sujet Psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute.
Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit Sujet Psychologique. Éléonore Tarlet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute. Les auditeurs vous connaissent parce que vous intervenez régulièrement à ce micro pour nous parler de différents sujets. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de méditation.
Oui, la méditation, donc on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors on parle de mindfulness ou de méditation de pleine conscience.
Oui.
Alors c'est vrai qu'on en parle pas mal, c'est issu du bouddhisme à l'origine, sauf que nous on parle de méditation de pleine conscience puisqu'en fait on va pas faire du prosélytisme évidemment quand on est psychologue dans son cabinet. Par contre, on sait que cette technique permet vraiment de renforcer les compétences et aptitudes du cerveau. Alors il y a plusieurs impacts, hein, mais ça va notamment densifier la myéline, qui favorise la transmission des messages au niveau du cerveau. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez en salle de sport et que vous voyez votre muscle qui se développe. Là, c'est pas du muscle, évidemment, c'est plutôt de la matière grise, on va dire, mais vous allez vraiment potentialiser les compétences du cerveau en méditant.
Alors quand vous parlez de méditation, quels sont les bienfaits de cette méditation? Quels pourraient être les inconvénients aussi?
Alors quand on médite, alors il y a des programmes qui sont validés scientifiquement, MBSR, MBCT, c'est des programmes de méditation pour réduire le stress ou pour réduire la dépression. Donc cognitive therapy ou stress reductions.
Donc on n'est pas dans une démarche spirituelle?
Non, pas du tout. Alors je pense qu'en méditant, on développe après une certaine ouverture, mais nous au démarrage, on médite pas pour ça. Au cabinet, on médite pour réduire la dépression et pour permettre aux gens de se détacher de leurs pensées, notamment des pensées négatives.
Et alors comment ça fonctionne exactement?
Alors c'est ça le truc, puisque moi je me rends compte, donc je fais un petit peu des soutiens à l'initiation de méditation. Quand les gens décident de méditer, ils ont un peu des a priori ou des fausses attentes. Ils pensent qu'en fait méditer c'est un peu comme de la relaxation et que c'est éviter. Si je médite, je vais aller bien. Si je médite, je vais être zen. J'avais le cas d'un monsieur qui me disait, moi, j'ai démarré la méditation en étant au ski. Et finalement, c'était super. J'ouvrais la fenêtre, j'avais l'air frais, les petits oiseaux qui chantaient. Et c'est vrai que j'étais bien. Puis je comprends pas. Je rentre de vacances, je reviens chez moi. Je suis plus dans le même état. Alors, je sais que je dois partir au travail après. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis en stress. Je suis dans mon environnement quotidien où j'ai plein de choses à faire. Et il me dit comment ça se fait que j'y arrive pas. Alors, la méditation, ça n'est pas faire en sorte que tout aille bien ou être toujours dans un contexte positif ou favorisant, parce que là, on va plutôt être dans de la contemplation, mais c'est très bien aussi. Mais méditer, c'est justement accepter inconditionnellement le bon comme le mauvais. Donc, ça peut être des émotions négatives, des pensées négatives. On va vraiment tout accueillir, être OK pour que ce soit là. Par contre, on va avoir un deuxième mouvement. Donc, le premier mouvement, on observe, on note que c'est là, qu'on a cette pensée. Et le deuxième mouvement, ça va être de lâcher, c'est-à-dire juste ne pas s'y accrocher, ne pas suivre cette pensée et revenir dans l'instant présent. Alors, on a plusieurs ancrages pour ça, pour revenir dans l'instant présent. Mais voilà, je me rends compte que souvent, les gens confondent méditer et éviter.
Éviter, c'est-à-dire ne pas accueillir les pensées ou les émotions qui nous viennent. C'est comme ça qu'il faut l'entendre.
Voilà. Alors, on se rend pas compte hein, quand on évite, parce qu'évidemment, quand on n'est pas bien, on a juste envie de pas être pas bien. Donc, c'est un peu, c'est spontané.
Donc, ce serait faire la politique de l'autruche, ne pas vouloir voir qu'on n'est pas bien, quoi.
Voilà. Alors que méditer, si je suis pas bien, je vais mettre les deux pieds dans le plat du pas bien et je vais observer ça. Moi je me souviens d'une fois où j'avais des nausées, bon je pensais que j'avais une gastro, enfin bref, et j'ai essayé plein de techniques qui ne marchaient pas, donc je me suis dit ok, je vais accepter inconditionnellement d'avoir cette émotion négative, cette émotion de dégoût, et je vais observer où c'est dans mon corps. Donc voilà, c'est dans la poitrine. Je me disais, bon, si ça avait une couleur, ça aurait quelle couleur? Si ça avait une forme, ça aurait quelle forme? Est-ce que c'est statique? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça monte? Et en fait, j'ai pris vraiment du temps, mais j'avais pas envie, hein. Parce que les pensées qui viennent avec ça, c'est si j'observe, ça va être pire. Mais ça, tout le monde vous le dira. Ah non, mais si j'observe ma colère ou si j'observe ma peur, ça va être pire. Je vais me faire envahir par la peur. Et finalement, ce qu'on constate, mais il faut vraiment passer par l'expérience, c'est que plus on médite et plus on est OK pour faire face à tout ça, et moins ça prend de place. Donc moi, ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, en observant cette émotion de dégoût, au bout d'à peu près 20 minutes, je me suis dit, bah tiens, c'est curieux, il n'y a plus rien. Mais je ne m'étais même pas posé la question de je fais ça parce que je veux qu'il n'y ait plus rien. Parce que quand on médite sans objectif. Il n'y a aucun objectif à avoir. Mais j'étais vraiment curieuse, comme si vous regardiez un tableau. J'étais curieuse de ça. Je me suis dit, bon, ça a quelle couleur, c'est quelle forme. Ah tiens, ça, ah là, bah, ça monte. Ok, bah ok, ça monte, d'accord. Bon, bah peut-être je vais vomir. Ok, bah peut-être, bah on observe ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça alors. Et j'étais persuadée d'avoir une gastro. Hein. Donc pour moi, l'issue que ça passe et qu'il n'y ait plus rien, ça me paraissait vraiment pas normal. Et en fait, il n'y avait plus rien.
Et éviter prolongerait finalement ces mauvaises pensées ou ces émotions qu'on ne souhaiterait pas avoir.
C'est ça. Plus vous évitez de regarder droit dans les yeux le problème, plus il prend de place.
Donc vous invitez vos patients à regarder le problème en face.
Voilà. Regarder droit dans les yeux et accepter qu'il soit là.
Et la méditation, c'est la première étape dans cette démarche. Il y a d'autres étapes ensuite.
La méditation, c'est tout un panel de plein de choses. Là, je vous décris vraiment des principes de base, mais c'est plus complexe que ça.
On pourra revenir justement sur les autres étapes qui peuvent s'enchaîner après cette méditation.
Avec C'était plaisir.
C'était petits sujets psychologiques. Merci beaucoup, Éléonore Tarlé. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était Petit Sujet Psychologique avec Éléonore Tarlé que vous retrouverez mardi prochain sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Philippe Delez, bonjour.
Bonjour Gaël.
C'est avec plaisir que je vous retrouve pour poursuivre sur cette série d'émissions sur la thématique de l'espérance. Lors de notre dernière émission, on avait parlé de deux thématiques, la mort et la résurrection. Des thématiques pas forcément simples et je pense qu'il faudrait apporter quelques éclaircissements. Et justement, je voulais vous demander davantage de précisions, peut-être tout d'abord sur la thématique de la mort.
Oui, tout d'abord, il est bien de signaler que la mort est la conséquence du péché. Rappelez-vous, nos parents possédaient la vie éternelle. Et à cause de la désobéissance, cette conséquence de la mort touche tous les hommes. Écoutons ce que nous dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12. Je vous lis. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous savez, la mort fait peur à tous. Pour certains, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a derrière, c'est l'inconnu. Et pour d'autres, ce n'est pas le fait de mourir, mais c'est plutôt la façon de mourir. Et la mort, c'est souvent un sujet qui est tabou.
Oui, c'est vrai, pour certains, la mort est représentée comme un départ vers un monde meilleur. Pour d'autres, c'est plutôt le néant, ou voire, pour d'autres encore, une forme de renaissance ou de réincarnation dans un être vivant.
Oui, il n'y a pas de religion qui ne parle pas de la mort. Mais en fait, il y a beaucoup de fantaisies émises concernant ce sujet qui est important.
Alors, lors des émissions précédentes, vous nous aviez parlé de deux morts dans la Bible.
Oui, nous avions lu, donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 11, celle que Lazare a vécue, c'est-à-dire la première mort, celle qui nous met dans le sommeil, dans l'attente de la résurrection. Jésus ressuscite Lazare qui est mort depuis 4 jours. Alors je vous pose la question, Gaël. Lazare n'aurait-il pas été en droit de se rebeller contre Jésus?
Oui, effectivement, on peut l'imaginer où qu'il soit, finalement.
Oui, au paradis, par exemple. Alors, le faire revenir d'un lieu paradisiaque où tout est lumière, douceur, beauté, le faire revenir sur cette terre où les malheurs, la souffrance, la maladie, la pauvreté, le crime sont le quotidien, quel supplice pour son ami Lazare. Pour moi, ça n'aurait pas été un acte d'amour vis-à-vis de son ami. En fait, la Bible ne nous rapporte pas ce que Lazare a dit, parce que tout simplement, il n'a rien vu.
Mais on a tous été confrontés à la mort, que ce soit d'un proche, un ami, un parent ou un voisin.
Oui, cette mort dont vous nous parlez est assimilée à un sommeil, à un état de coma, et durant lequel il n'y a aucune activité ni physique ni mentale. Bref, cette mort s'agit d'un repos total. Regardons ce que nous dit la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 7. Je vous lis. « Et l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Dans certaines versions, « devint un être vivant ». Alors, déjà nous lisons qu'il devint une âme vivante. Il n'est pas dit qu'il reçut une âme. Et le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament fait également référence à la mort dans son chapitre 12 au verset 9 ou 7 suivant les versions, avant que la poussière retourne dans la terre comme il y avait été et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Seul le souffle ou l'esprit, selon les versions, retourne vers Dieu. L'homme, à proprement parler, n'a pas d'âme. Il est une âme. L'esprit ou le souffle est un principe vital qui vient de Dieu, qui anime l'homme et demeure en lui aussi longtemps qu'il vit. Voyons ce que nous dit la Bible dans le premier livre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23. Je vous lis. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'esprit, l'âme et le corps, trois éléments bien différents.
Alors, bien différent, oui, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça de manière plus simple? Vous auriez un exemple à nous donner?
Oui, je vais vous imaginer cela. Prenons voir un exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un ordinateur. Il est composé d'une unité centrale et d'un disque dur. Et cet ordinateur est alimenté par le courant électrique, comme tout le monde le sait. Bien sûr, comme dans le corps humain, nous y trouvons des périphériques indispensables pour ses différentes fonctions. L'unité centrale, nous l'assimilerons au corps. Et le disque dur, nous l'assimilerons à l'âme. L'âme est le recueil de toutes les informations, de nos émotions, de nos traits de caractère que nous développons pendant toute notre vie. Tout comme le disque dur stocke les informations durant la vie de l'ordinateur. Et le courant électrique, nous l'assimilerons à l'esprit, au souffle de vie. Et je relis à nouveau le verset 7 de la Genèse au chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Écoutons ce que Jésus dit sur la croix. Dans l'évangile de Luc, il est rapporté ceci au chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. »
Alors, on comprend bien les différentes notions d'esprit, de corps et d'âme, mais avons-nous dans la Bible un texte précis sur la séparation de l'âme et de l'esprit?
Oui, la Bible a plein de réponses dans ce sujet. Au chapitre 4 du livre des Hébreux, au verset 12, je vous lis ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'homme est un tout, et avant de recevoir le souffle de vie ou esprit, il n'était que matière morte. Toutefois, cette créature vit, et elle vit par la puissance de Dieu qui lui donne ce souffle. Ce souffle n'a pas d'existence propre, il ne vit pas par lui-même. Le souffle est au même titre que le courant électrique qui alimente l'ordinateur. C'est Dieu qui le donne. Sans ce courant électrique, souffle de vie ou esprit, l'ordinateur ne fonctionne pas. Au moment où le courant est retiré, l'unité centrale et le disque dur s'arrêtent. Ils sont en sommeil. Dans le terme actuel, on dirait en stand-by. Le disque dur ne quitte pas l'unité centrale pour se promener je ne sais où. Lorsque nous sommes confrontés à la première mort, il en est de même pour notre âme. Elle ne se promène pas ni au ciel, ni au purgatoire, ni en enfer. Ce n'est pas biblique. Nous sommes en sommeil, en stand-by. Mais nous allons le quitter avec cette bonne nouvelle. En début d'émission, nous avions évoqué le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Je vous le relis. « C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Un seul homme, c'est Adam. Le péché sont les fausses doctrines. » Et je vous cite un peu plus loin, dans le verset 19 du même chapitre. Je vous lis. « Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Un seul homme, toujours Adam, et l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ et à son obéissance jusqu'à la mort, nous pouvons retrouver la vie éternelle. »
Alors ça, c'est le message d'espoir, effectivement, qu'il fallait pour conclure cette émission. Mais je pense que vous en avez encore sous la botte à nous dire par rapport à la thématique de la mort, puisque on a parlé de première et deuxième mort, donc je pense qu'on n'en a pas encore fini avec cette thématique.
Non, je pense aussi qu'il faille deux ou trois séquences encore pour partager ce sujet. Et je me réjouis de la partager avec vous, chers auditeurs, et Gaël, merci.
À très bientôt.
À très bientôt.
Sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste et vous écoutiez La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et bien sûr tout cela en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.